Bonjour, j'ai écrit il y a 2 ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire.
Épisode 6.
Qu'est-ce qui s'est passé dans la cour?
Vendredi soir. Valérie Roussel, la directrice de l'école primaire, est rentrée fourbue chez elle. Elle habite une maison au sud de la ville, près de la rivière. C'est charmant. Quand elle l'a achetée avec son ex-mari, ça avait été un véritable coup de cœur. L'été, les déjeuners qu'on prendrait dehors, sur la terrasse avec vue sur l'eau et les enfants qui pourraient aller s'y baigner. Il suffirait qu'on les surveille, il n'y avait pas profond et peu de courant. D'ailleurs, à l'époque, on parlait déjà d'installer un barrage au nord qui permettrait de créer un étang avec des aménagements pour les enfants et un sentier de promenade. Le temps avait passé. Valérie et son ex-mari avaient divorcé alors que leur fille avait 10 ans. À cette époque, on avait construit le barrage, l'étang avait été créé, le bras de rivière devant la maison de Valérie avait minci, mais ça restait joli. Sa fille vivait une semaine sur deux ici. On avait trouvé ça pratique puisque l'ex-mari s'était installé dans une ville voisine. On est resté en bons termes. Valérie ne regrette rien. Elle est juste fatiguée ce soir, c'est pour ça qu'elle repense à son mariage, en sirotant le verre de vin qu'elle s'est servi avant même de retirer ses chaussures. Elle s'installe dans le canapé et ouvre son ordinateur portable. Elle appelle sa fille, qui doit être sur sa tablette en ce moment, puisque les jeunes gens aujourd'hui semblent passer leur vie un écran sous le nez. C'est un appel vidéo, elle adore ça. C'est pratique et émouvant. Sa fille lui répond comme si elle l'avait attendu.
Ça va pas, maman?
Si, 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 ça va. J'ai juste eu une journée fatigante. Dis, tu viens bien dimanche soir?
Mais non, maman, je t'ai dit plusieurs fois. Je viens qu'à partir de mercredi. On part en excursion avec le collège. On va voir des châteaux, je sais plus où. On part lundi matin et on dort à l'hôtel de nuit. C'est pas pratique que je vienne dimanche soir juste pour déposer mes affaires. Autant que tu viennes me chercher mercredi matin quand on rentre.
Ah oui, c'est vrai. Ça m'était sorti de la tête. C'est dommage, j'aurais bien aimé te voir plus vite. Tu me manques. Sa fille rit, un peu gênée. Elle gigote sur son lit, s'assoit en tailleur, puis s'allonge, se rassoit. Elle ne tient jamais en place.
T'es sûre que ça va, maman?
Oui, je te laisse. Tu dois avoir d'autres choses à faire. Bonne soirée, dors bien. Je t'aime. Valérie a réussi à raccrocher avant que les larmes ne franchissent ses cils. Sa fille n'a pas dû s'en rendre compte. Pourquoi pleure-t-elle? Est-ce que ce n'est pas la chose la plus idiote du monde de pleurer sans savoir pourquoi? Catherine, la conseillère municipale, vit avec son mari Gilles et ses deux filles, Inès, la plus grande, et Clémence, la petite, dans une maison qui allie le charme de l'ancien à l'épure contemporaine, à 2 pas de la mairie. Catherine pensait passer une soirée agréable. Un vendredi soir, c'est souvent agréable. Mais il a fallu que son aînée lui raconte, non sans fierté, ce qu'elle avait fait à Anita, et la soirée a été fichue en l'air. C'était le dîner. Ouais. Clémence chantonnait en même temps qu'elle triait les gnocchis des haricots verts. Gilles avait, comme d'habitude, l'air dans le vague et se levait parfois de table pour ramener du poivre ou du fromage pré-tranché sans que personne ne le lui ait demandé et surtout sans que lui-même ne s'en serve. Catherine avait pris plus de haricots verts que de gnocchis et refusé, non sans un pincement au cœur, la sauce à la crème que son mari avait faite. Et l'aînée, Inès, avec sa tresse portée sur l'épaule gauche, comme elle faisait avec son amie d'enfance,
On est presque jumelles, regarde.
ses taches de rousseur, son petit nez, son visage qui s'allongeait, ses lèvres fines, ses joues qui rougissaient vite et ses yeux verts, parlaient. Elle parlait, comme à son habitude, avec un débit inconsidéré, semblant ne plus jamais devoir respirer. Elle racontait sa journée. On n'avait pas besoin de le lui demander, alors qu'avec la petite, c'était tout un travail pour savoir ne serait-ce que ce qu'elle avait mangé au déjeuner. Catherine était fatiguée, et son mari devait l'être aussi, mais ils n'avaient pas eu le temps de discuter. Il était rentré du travail avant elle. À la banque qui l'emploie, il quitte le travail tous les jours à 16h30 pour récupérer les enfants. La réunion du conseil municipal, de son côté, avait encore une fois duré plus longtemps que prévu, et les discussions avaient été ardues. Portant sur la nécessité ou non de construire des pistes cyclables hors chaussée et de l'augmentation des impôts locaux pour éponger le coût. Catherine s'investissait beaucoup dans le conseil, au point qu'on la voyait bien, c'est ce qu'on lui disait, et elle prenait soin de ne jamais faire de fausse modestie en réponse, on la voyait bien accéder au poste de maire pour les prochaines élections.
En tout cas, moi, je voterai pour toi.
On lui disait ça aussi, parfois. Mais pour ça, il faudrait qu'elle trouve une associée pour la bijouterie qu'elle tenait, mais personne ne lui venait à l'esprit et s'assurerait que Thaddeus ne se représenterait pas.
Thaddeus est un homme sympathique, mais suffisant et il manque d'idées.
Catherine en a des tonnes, des idées, mais elle ne ferait pas le poids face au maire sortant. Il commençait à faire chaud dehors, alors on pouvait manger la fenêtre de la cuisine entrouverte. On entendait le chant des derniers oiseaux de la journée. Et sa fille parlait. Catherine souriait, parce que sa vie était à son goût, il fallait bien le dire, son mari était encore bel homme et très investi dans leur famille, peut-être même qu'elle l'aimait encore, c'est-à-dire qu'elle l'aimait encore comme au premier temps. Elle avait souvent envie de faire l'amour avec lui, et lui aussi, ça devait être un bon signe. Ses filles étaient en bonne santé et elles n'étaient pas bêtes. La conseillère propriétaire de bijouterie aurait très bien accepté que ses filles soient physiquement moyennes, voire moches, mais pas qu'elles soient stupides.
Maman, tu m'écoutes ?
Bien sûr que je t'écoute, ma chérie. Enfin, j'essaie, mais tu parles beaucoup et je suis fatiguée.
Tu trouves pas ça incroyable ?
Quoi ?
Bah, ce qu'on a fait avec Anita.
C'est qui, Anita ?
Mais tu sais, la fille de la dame qui a pas de bras.
Ah. Catherine leva les yeux de son assiette avec un léger soupir, celui qui disait « Bon, je vais t'accorder mon attention. » Et c'est à ce moment-là qu'elle vit que sa Benjamine ne triait plus ses gnocchis et avait les yeux rouges et gonflés. Qu'elle réalisa que son mari n'avait plus l'air dans le vague, mais atterré. Il tourna lentement son beau visage symétrique vers elle, et elle se rendit compte que ses joues commençaient à s'affaisser. C'était léger, mais sûrement irrémédiable.
« Chérie, tu lui dis rien ?»«
Qu'est-ce que je devrais lui dire ?»«
Tu n'as pas entendu. »
Et l'aîné, plus rouge encore que d'habitude, qui braillait presque
« Tu m'as même pas écouté !»
Et le mari qui devint rouge alors que ça ne lui arrivait presque jamais.
« Tu te tais, maintenant !»
Et la petite, qui avait de grosses larmes qui roulaient en silence le long de ses joues, rebondit. Et la mère, concentrée d'un seul coup dans ses mots « Qu'est-ce que tu as fait à Anita ?» Inès pâlit, comprenant que ce n'était peut-être pas si bien que ça, après tout, puis reprit son récit depuis le début, plus lentement, choisissant ses mots en espérant atténuer sa faute, sans comprendre exactement où elle pouvait bien être, sa faute. Catherine dit « Les bras m'en tombent » et elle ne se rendit pas compte que l'expression était malheureuse compte tenu de la situation.
« Je vais être punie ?»
Il n'y a pas de punition que je puisse imaginer pour la méchanceté dont tu as fait preuve.
Mais je suis désolée.
Tu présenteras des excuses à Anita et à sa mère.
Demain ?
Ah non, 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 demain on n'aura pas le temps. Dimanche. Si la jeune fille s'était attendue à ça, elle aurait choisi de se taire. Il était certain que ni Anita ni sa sorcière de mère n'auraient osé l'accuser, et si elle n'avait pas cette fâcheuse tendance à ne pas savoir se taire, elle aurait été tirée d'affaire sans même avoir eu le temps d'être inquiétée. Son orgueil la perdra. Son oreiller, ce soir-là, épongea mal ses larmes, et la lumière douce sur les murs pastels de sa chambre lui donna envie de vomir. La mère d'Anita s'appelle Jo. Elle a un prénom tronqué, elle a toujours eu la sensation qu'il y manquait des lettres. Sa propre mère lui avait dit que c'était un clin d'œil aux quatre filles du docteur March, mais Jo n'avait jamais voulu le lire. Pendant le même dîner, mais à un autre endroit de la petite ville, moins centrale, près de la route nationale, Jo dut questionner beaucoup et longuement sa fille pour qu'elle ose enfin lui dire ce qui s'était passé. Et encore, Anita retint dans sa gorge ce qui aurait pu blesser sa chère maman. La femme qui semblait être faite de la même chair qu'elle, dont elle savait sans le savoir qu'elle était issue, dont elle savait sans le savoir qu'elle l'avait abritée, portée, choyée, qu'elle la choyait encore, portait encore, abritait encore, dont elle ignorait qu'on avait dit d'elle dans les rues et les commerces.
Mais qui a bien pu vouloir faire un enfant à une femme sans bras ?
Jo aimerait pouvoir réfléchir, ou même mieux, sourire de l'incident. Jusqu'à présent, la plupart des choses, des événements, des chutes, des affrontements avaient été à l'échelle de son enfant, avaient pu être réglées d'un baiser, d'une parole rassurante, d'une glace au chocolat, un sourire compréhensif et un brin nostalgique. Pas cette fois. Cette fois,
La glace au chocolat n'avait servi à rien, sinon à recueillir les larmes chaudes de l'enfant. La glace avait fondu, tandis que la mère berçait la petite, pressant son corps d'adulte contre le sien encore si petit, si chaud, si vibrant, remettant parfois une mèche de cheveux à sa place avec une de ses mains en plastique, très adroitement. Elle collait sa joue contre celle d'Anita, mouillée, humait sa tristesse à grandes inspirations, tentant de l'absorber et de l'évacuer ensuite dans de longs soupirs, chantonnant « là, là, c'est tout, ça va aller bébé », parce que les mots intelligents l'avaient abandonnée. Quand la petite fut calmée, alors que la glace au chocolat s'était transformée en une bouillie marron et luisante, alors que les corps s'étaient séparés et que la vie semblait reprendre son cours avec ces bruits d'objets qui se cognent dans les aigus et résonnent longtemps, de pas qui frottent au carrelage, de vêtements frôlés, tandis que la femme sans bras entreposait le cœur lourd, la vaisselle dans l'évier, se disant que pour une fois ça pourrait bien attendre le lendemain, la voix d'Anita, éreintée par les sanglots, s'éleva, mal assurée, frottant comme les pas sur le carrelage, certaines syllabes se cognant comme le couteau contre le verre vide.
« Et puis, les filles, elles m'ont demandé pour mon père, mais aussi elles ont dit que toi, maman, que toi. »
La mère se figea, et en même temps qu'elle, la femme sombra, et en même temps qu'elle, l'enfant qu'elle avait été, peut-être aussi sa propre mère, au-dessus et au travers d'elle-même, s'était figée. Le bol de glace dans la main en plastique, entre la table et l'évier. Elle attendit, la femme qui était aussi la mère, qui était aussi l'enfant, qui était aussi un peu celle et ceux d'avant elle. Elle attendit, consciente de son ascendance, que le couperet tombe, et se demanda bien quel effet ça lui ferait. Elle avait espéré, bien sûr, que ça n'arrive jamais, mais dans le fond, elle savait parfaitement qu'il est des choses auxquelles on n'échappe pas et que l'histoire se répète inlassablement. Sa propre mère n'avait pas su la protéger de ça, sa mère si puissante, si volcanique. Tout lui revint en accéléré. C'était l'automne.
Elle venait d'avoir 8 ans et d'être considérée par les médecins et les différents membres de la communauté hospitalière comme remise du terrible accident de voiture qui lui avait coûté ses 2 bras et avait tué sa grand-mère. Décapitée, sa grand-mère qui fumait continuellement et portait des lunettes si sales qu'on voyait mal ses petits yeux de jais. Joe avait tout vu depuis le siège arrière de la décapotable. Sa grand-mère trop alcoolisée pour prendre le volant, mais à l'époque... on était moins regardant, trop alcoolisé sûrement pour se rendre compte que la voiture allait bien trop vite dans l'allée de la maison, que la porte du garage n'était qu'à moitié levée et n'aurait pas le temps de monter beaucoup plus haut avant que la voiture... La tête de sa grand-mère avait été arrachée de son cou et la petite fille à l'arrière, dans un réflexe idiot, avait levé les bras pour la rattraper.
S'en étaient suivies des semaines de coma, des mois d'hospitalisation, de rééducation, de découverte d'un nouveau corps plus restreint. D'apprentissage. Elle avait pris le temps d'apprivoiser ses prothèses myoélectriques, et quand elle était sortie de l'hôpital à l'été suivant, toute cette année n'était qu'un souvenir nébuleux déjà, d'une lenteur fulgurante, un flash mou. Alors, à l'automne de ses 8 ans, elle était retournée à l'école, après une année d'absence, armée de son nouveau corps et de ses cicatrices, les cheveux plus longs encore qu'ils n'avaient jamais été. Elle avait été préparée par le psychologue, par tous les gens si doux et si patients qui s'étaient occupés d'elle dans l'hôpital de la grande ville, bercée par les réflexions de sa mère sur la chance qu'on a, quand même, d'avoir la sécurité sociale. Elle savait et avait anticipé les regards, s'était préparée aux questions, à l'effroi surjoué et aux moqueries. Mais tout ceci n'avait été d'aucun secours quand les enfants et leurs parents lui avait interdit l'accès à l'école, malgré les protestations peu convaincantes du directeur et des 2 institutrices de l'époque. Sa mère était avec elle, abasourdie, figée, et c'est la petite fille qui avait dû la forcer à rebrousser chemin, prenant sa grande main aux bagues en or dans sa petite main en plastique, alors que les gens disaient d'elle, la petite, d'elle, la grande, d'elle, la grand-mère décapitée, qu'elles étaient
Une sorcière, maman. Ils disent que t'es une sorcière.
C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres.